Bien, je vais pas m'excuser, j'étais un peu en retard. Alors, nous commençons cette dernière séance. La première leçon s'ouvrait sur un des problémata d'Aristote. D'où vient la compassion prise au sens d'une souffrance ou plus largement d'une émotion partagée, synalgie, condouleur, compassio. That's beautiful. Alors je ne comprends pas ce qui se passe là, mais j'ai décidément des... Alors ce sont des sortes de calligrammes. Vous devriez lire le texte grec, il n'y est pas. Vous voyez le français, l'anglais, enfin c'est les cantos pisans. En tout cas, une allusion au fer. Enfin, la question, pourquoi, si nous avons vu quelqu'un à qui l'on coupe une partie du corps ou que l'on brûle ou torture ou qui subit un autre traitement pénible, partageons-nous sa douleur en esprit? Outre l'allusion au fer qui tranche et mutile, pensez à Maxime le Confesseur, main droite et langue coupée, au feu qui brûle et consume, à la roue, bref, aux trois grandes formes de supplice, de souffrance que l'on subit, il fallait noter le petit mot idomène, que nous aurions bien du mal à voir à présent, mais référant le compatir, le sunalgeo, au voir, ideo ou eidon, la compassion commence à la vue de la passion, on dira au spectacle de la douleur. Pas de compassion sans spectacle, pas de spectacle sans compassion. Pas d'identification au souffrant sans vision. Pas de compassion sans image. Le réquisite est le même pour la pensée et la passion. Pas de pensée sans image, dit Aristote. Mais on peut, on doit aller, on est allé plus loin, jusqu'au point où nous conduit la stigmatisation de François d'Assise, explicitement vécue comme mise en image, réplique, reproduction, copie conforme. Soulignons que la doctrine de la divinisation de François est vite communément acceptée dans l'ordre franciscain. André Vaucher note qu'elle est développée dans le sens le plus littéral par Barthélemy de Pise dans son De conformitate vitae beati Francisci ad vitam domini Jesu, approuvé par le chapitre général de 1390. Le plan et la composition de l'ouvrage visant à démontrer par des comparaisons terme à terme que la vie de saint François fut bien une reproduction de celle du Christ. Conformitas est le mot décisif. L'allemand, la langue allemande, qui entend à la fois la forme et l'image dans le mot Bild, conserve le double registre quand il s'agit de dire la Gelassenheit, le délaissement, dont aux yeux même du dominicain Eckhart, son, je cite, cher Seigneur Saint François, franciscain, a donné l'exemple en l'espèce de la véritable pauvreté et de la véritable humilité dont le sermon allemand 74, à présent 92 dans le classement sur l'ordre liturgique, fait le vibrant hommage. Suso écrit « Ein gelassener Mensch muss entbildet werden von der Kreatur, gebildet werden mit Christo und überbildet in der Gottheit. » Jeanne Ancelet-Eustache traduit « Un homme qui sait renoncer, gelassener Mensch, doit être détaché des formes créées, formé avec le Christ et transformé dans la déité. » Alois Haas et son traducteur français, c'est-à-dire Wolfgang Wackernagel, qui traduit donc un article allemand en français et le traduit de la manière suivante, donne « Un homme détaché ne doit plus avoir d'image de la créature, il doit être imagé, formé avec le Christ et surimagé, c'est-à-dire formé de manière éminente dans la déité. Le ternaire bâti sur Bild est emprunté à Eckhart, Predigt, sermon allemand numéro 40, désormais 72 dans l'ordre liturgique, qui décrit avec le verbe bilden, préfixé de trois manières, ent, in, über, les trois moments de l'union transformante. L'homme, lorsqu'il s'unit totalement à Dieu avec amour, est détaché des images, so wird er entbildet, entbildet en Mittelhochdeutsch, formé, ingebildet, et transformé, überbildet, dans la conformité divine en laquelle il est un avec Dieu, in der göttlichen Einförmigkeit, in der er mit Gott ein ist. Suso donc ajoute avec le Christ ce que dit Eckhart avec cette notion d'inbilden. Il ne fait qu'expliciter en ajoutant avec le Christ la pensée d'Eckhart. Mais cette conformation, cet être imagé, formé avec le Christ, marque un changement de paradigme. Un changement de paradigme s'opère véritablement d'Eckhart à Suso dans la mystique rhénane, autour de cette notion de conformation. De fait, le passage de la mystique de l'essence à la mystique de la souffrance, qui a lieu entre les deux auteurs, Eckhart, le maître, Suso, le disciple, est d'abord un changement dans la compréhension de la notion de conformation. Chez Eckhart, le dépassement des images et le détachement, entendu comme connaissance inconnaissante, pauvreté en esprit, sont la voie royale de la Glassenheit, du délaissement. Chez Seuse, Suso, c'est la souffrance prise comme signe et moyen exclusif d'une totale abnégation de la volonté propre qui constitue la voie royale du délaissement. Quand Eckhart parle de se conformer au Christ, il pense à sa divinité. Quand Suso parle de se conformer au Christ, il pense à son humanité souffrante, à l'humanité du Christ en croix. Nous étions arrivés la semaine dernière à la description des six étapes de l'itinéraire de l'esprit vers Dieu, décrite par Bonaventure, sur la base de l'exégèse victorine de la vision d'Ézéchiel et surtout des six éléments, des six constituants de l'Arche d'Alliance, telle que celle-ci est décrite dans le chapitre 25 du premier livre de l'Exode. Deux textes bibliques, Ézéchiel et l'Exode, riches en bruissements d'ailes, ici chérubinique, là séraphique. Le sextuple schéma de Richard de Saint-Victor, correspondant aux six ailes du séraphin, est repris par Thomas d'Aquin dans sa description des six degrés de la vie contemplative. Ce qui nous attend au sixième étage de la vie contemplative est la contemplation de la vérité divine, per speculum et in enigmate, en miroir et en énigme, 1 Corinthiens 13, 12, à savoir ce qui nous attend donc au sixième étage, thèse capitale pour comprendre Maître Eckhart, une incoation de la béatitude, un commencement d'existence de la béatitude, qui commence ici-bas pour s'achever pleinement dans le futur. Richard de Saint-Victor, peaufinant l'exégèse de l'arche de Moïse, alors je vous rappelle que arche signifie coffre, hein, dans le cas de l'arche de Moïse, c'est l'arche d'alliance est un coffre. Donc, Richard de Saint-Victor, donc, peaufinant l'exégèse de l'arche de Moïse, telle qu'elle est décrite dans le livre de la Genèse, distinguait deux chérubins de l'âme. L'intelligence opérant au-dessus de la raison, mais pas contre la raison. Le chérubin de gauche, cinquième étape. L'intelligence opérant au-dessus de la raison et contre la raison. Le chérubin de droite, sixième et dernière étape. À chacun son itinéraire. Eckhart opte pour une autre échelle au moment d'escalader les 6 degrés. Dans le sermon de l'homme noble, il choisit de suivre la seconde épître aux Corinthiens de Paul et le De vera religione d'Augustin. Les 6 degrés sont désormais les 6 degrés, ce qu'il appelle les 6 degrés de l'homme intérieur, les 6 degrés de l'homme nouveau, donc de l'homme noble, celui de Luc 19, 12, analysé à partir de la célèbre distinction de 2 Corinthiens 4, 16 entre homme intérieur et homme extérieur. L'autre homme qui est en nous, c'est l'homme intérieur. Celui-là, l'Écriture l'appelle un homme nouveau, un homme céleste, un homme jeune, un ami et un homme noble. Et c'est de celui-là que parle notre Seigneur, disant que, et voilà le texte de Luc 19, 12, sur lequel le sermon est construit, un homme noble s'en fut en un pays étranger pour s'y gagner un royaume et s'en revint chez lui. Eckhart suit fidèlement le De vera religione d'Augustin. C'est arrivé au 6e étage qu'il y a un changement. En fait, chez Augustin, il y a 7 étapes, 7 modes, dont l'un, le 7e, se situe après la mort. Eckhart, lui, fusionne les deux, le 6e et le 7e, en un mode unique, valable ici-bas, dès cette vie. J'ai indiqué ici, en espèce de A6, A7, le 6e et le 7e mode de la vie de l'homme intérieur, hein, selon Augustin, et sous le rubrique E6, le 6e degré écartien constitué de la fusion de A6 et A7. Donc, Augustin disait au 6e degré, le changement s'achève pour la vie éternelle, il va jusqu'à l'oubli le plus complet de la vie présente pour acquérir la transformation parfaite à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Pour acquérir. A7, enfin, le 7e est le repos éternel, le perpétuel bonheur, où n'est plus possible aucune distinction d'âge, car si la mort est la fin du vieil homme, la fin de l'homme nouveau est la vie éternelle, parce que l'un est l'homme du péché et l'autre celui de la justice. Version Descartes, le 6e degré, c'est quand l'homme est détaché des images et transformé au-dessus de lui-même par l'éternité de Dieu. Quand il est parvenu à l'oubli total et parfait de la vie éphémère et temporelle, transformé en une image divine, devenu enfant de Dieu. A7. Il n'existe pas au-delà de degrés plus hauts. Là sont le repos et la félicité, on peut aussi dire béatitude, éternelle, car la fin de l'homme intérieur et de l'homme nouveau est la vie éternelle. L'homme est transformé en une image divine. Transformé en une image divine, pas par la stigmatisation, pas comme François. Que veut dire transformé en une image divine ? Réponse, c'est précisément se retrouver dans l'état où était François d'Assise avant la stigmatisation, c'est-à-dire la pauvreté et l'humilité parfaite. C'est cela la conformation au Christ. La nouveauté écartienne est de faire place à une vie bienheureuse. Ce sera le titre, bien des siècles plus tard, d'un célèbre texte de Johann Gottlieb Fichte, Anweisung zum seligen Leben, initiation à la vie bienheureuse. La vie contemplative devient vie bienheureuse. Ce déplacement a une portée philosophique considérable. Elle était esquissée par Thomas d'Aquin, qui, à la description de la béatitude future dans l'au-delà, autrement dit la vision bienheureuse, juxtaposait celle de la félicité mentale selon Aristote, pour donner une idée de ce qui nous attendait là-haut. Mais vita beata, vie heureuse, c'est d'abord le titre d'une des premières œuvres d'Augustin. La vie heureuse, rédigée en 386, au moment où Augustin, à la fois, suit les prédications d'Ambroise à Milan, lit en juin les livres des platoniciens et s'apprête, sans le savoir, à vivre en août l'épisode dit du jardin de Milan, où il entendra la voix d'un enfant, garçon ou fille, je ne sais, chanter la ritournelle « Tolle lege, tolle lege », prends, lis, qui décide de sa conversion. Vie bienheureuse, cela veut dire félicité à la Aristote, et vie heureuse à la Augustin. Aristote et Augustin fusionnés. La vie bienheureuse, le sixième degré écartien, est une réévaluation de la théologie de la gloire. La Theologia Gloriae n'est pas seulement la théologie de Romains 1:20, celle des invisibilia Dei per ea quae facta sunt intellecta, c'est-à-dire des choses divines comprises intellecta per ea quae facta sunt, par les choses qui ont été créées, donc la connaissance de Dieu, le Créateur, par ses effets créés. Cette théologie à laquelle Luther, suivi par le jeune Heidegger, oppose la théologie de la croix. La théologie de la gloire, telle que la comprend Eckhart, c'est aussi la vision de Dieu ici-bas, dans la lumière de gloire. Autrement dit, ce qu'on appelle théologie mystique. En fait, c'est la théologie dionysienne menée à son terme. Albert le Grand, père de la mystique rhénane, de l'école dominicaine allemande, soutenait que l'on pouvait enseigner toute la théologie avec Denis comme texte de base. Comme les scolastiques, les maîtres de l'université le faisaient, eux, de leur côté, en s'appuyant sur les sentences de Pierre Lombard. C'est cela qu'Albert le Grand a lancé comme type d'étude, méthode d'enseignement, dans le Studium Generale, le couvent d'études générales dominicain qu'il a fondé à Cologne, où, rappelons-le, en Allemagne, à l'époque, c'est-à-dire au XIIIe siècle, pas plus qu'au temps Descartes, d'ailleurs au XIVe, il n'y avait d'université. Eckhart se rattache à cette théologie dionysienne qui culmine dans la déification, théosis, ce qui veut dire aussi dans le rapt, raptus, ravissement, le ravissement de Paul au troisième ciel, une brève vision de Dieu dans la lumière de gloire. Théosis, déification, rapt, raptus, vie bienheureuse, il faut penser ces trois ensemble et changer de rapport au temps pour comprendre ce qui se passe avec Eckhart. Il y a, de ce point de vue, une belle exégèse de 2 Corinthiens 12:2. Je sais un homme en Christ qui fut ravi jusqu'au troisième ciel. C'est la phrase de Paul parlant de son propre ravissement après coup. Je sais un homme en Christ qui fut ravi jusqu'au troisième ciel. Donc, il y a une belle exégèse de ce passage dans le sermon latin 22 de Maître Eckhart sur Luc 16:1-9. Ce sermon est un véritable traité d'anthropologie chrétienne. Il pose d'emblée, au paragraphe 206, alors évidemment les paragraphes sont donnés par les éditeurs modernes, n'est-ce pas, la différence entre homme intérieur et homme extérieur. Puis, au paragraphe 208, il expose Colossiens 3:10, revêtez l'homme nouveau. Cette injonction, revêtez l'homme nouveau, ponctue les paroles de Paul sur la mortification et sur le détachement par rapport aux passions que nous avions évoqué le 25 janvier. Vous vous rappelez, c'était ce passage. « Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, la souillure, les affections déréglées, passiones, la mauvaise convoitise et l'avarice qui est une idolâtrie. » Donc cette injonction, « Revêtez l'homme nouveau », ponctue les paroles de Paul sur la mortification et sur le détachement par rapport aux passions. Il faut, c'est le mot d'ordre, se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Je sais un homme en Christ qui fut ravi jusqu'au troisième ciel. Que signifie en Christ ? Que signifie être ravi ? Voilà le propos de Maître Eckhart. En Christ signifie conformer au Christ, configurer au Christ unique. Donc ces deux termes sont fondamentaux, hein. Conformer, configurer, pour être fils adoptif, criant Abba, Père. Ce qui est une reprise de Romains 8:15, opposant l'adoption à la servitude. Je vous rappelle Romains 8:15, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Être fils, donc, adoptif, plutôt que serviteur. Au paragraphe 215, s'appuyant sur 1 Jean 2:6, Eckhart explique quels sont les vrais signes du Fils. À quoi reconnaît-on le Fils par distinction d'avec le serviteur ? Bien voilà les vrais signes du Fils. Rien d'extraordinaire là, rien de mystique. Un beau comportement, un comportement pacifique, principalement l'amour des ennemis. Une multiplication continue des bonnes œuvres, le débordement d'une bonne et fructueuse renommée, la contemplation studieuse des choses divines, une constante persévérance dans l'obéissance en toutes choses. Quant au ravissement lui-même, le rapte, après avoir noté avec Thomas que les mots extase, ravissement d'esprit et rapt sont souvent interprétés de la même façon dans les Écritures, le sermon laisse clairement entendre qu'être ravi, c'est être ravi en Christ. Le ravissement, c'est la vie chrétienne et non plus seulement le rapt au troisième ciel. La vie bienheureuse, l'incoation de la vision bienheureuse. C'est la vie dans le Christ et par le Christ. Je ne vis plus, c'est le Christ qui vit en moi, dit Paul en Galates 2:20, parlant du Christ crucifié. Eckhart ne dit pas autre chose, mais comme le montre le sermon latin 20, ce qui, selon lui, vit en l'homme, en tout homme conformé au Christ, c'est d'abord l'image vivante, le Christ lui-même, image du Père dont il n'y a pas d'image, image sans image, image dont il n'y a pas d'image faite de main d'homme ou tracée sur le corps dans les stigmates. On a ici un renversement dialectique, illustrant à sa manière la communication des idiomes, le chiasme des propriétés dont nous avons parlé ces dernières semaines. De même que le Verbe, dans l'incarnation, a revêtu l'homme, a pris l'homme en habit. Rappelez-vous, Philippiens 2:7, « Habitu inventus est homo ». De même, donc, que le Verbe a revêtu l'homme, de même, l'homme doit non seulement dépouiller le vieil homme, c'est-à-dire s'en dévêtir, et revêtir l'homme nouveau, mais encore, et pour le dire plus exactement, il doit revêtir le Christ. Celui qui est vraiment un chrétien, qui reçoit son nom du Christ, considère tous les hommes de la même façon comme lui-même, parce que le Christ a assumé la nature humaine et non une personne. Personne n'est chrétien si ce n'est à travers l'être en Christ et à travers l'être du Christ. En effet, comment serait-il chrétien si ce n'est par l'être ? Il peut certes être dit ou appelé chrétien, mais il ne peut être chrétien sans l'être. Donc, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, Romains 13, 14, c'est cela qu'on appelle vivre selon la vertu. Il y a donc bien deux modes de conformation au Christ. Par l'apatheia, l'absence de passion, chez Maître Eckhart. Par le pathos, par la souffrance, chez Suzo. Ce qu'ils ont en commun, dans les deux cas, c'est l'obéissance. La subordination de la volonté humaine à la volonté divine, comme dans le Christ, vu par Maxime le Confesseur. Ce qui compte, c'est l'obéissance. Le Christ a obéi jusqu'à la mort. Ce qui compte, c'est la subordination de la volonté humaine à la volonté divine. C'est là que les deux modes, apatheia et pathos, se rejoignent, dans l'abnégation de la volonté propre, dans le deuxième temps de la prière d'agonie. L'originalité Descartes est de tracer un chemin entre théologie de la gloire et théologie de la croix. Un chemin qui conduit aux deux, un chemin qui vient des deux, un chemin qui participe des deux et qui articule les deux, un chemin qui articule le genre kénotique et le genre majestique, l'humiliation et l'élévation, la kénose et l'apothéose. En témoigne l'extraordinaire interprétation que Maître Eckhart donne du « tolle crucem » de Matthieu 16, 24. « Si quis vult post me venire abneget semet ipsum et tollat crucem suam et sequatur me. » Voici cette interprétation. Lève ta croix, pose ta croix. J'ai intitulé ça l'Aufhebung Eckhartienne. Notre Seigneur dit, qui veut venir à moi, il doit sortir de soi, se renoncer et doit aufheben, lever sa croix. C'est-à-dire, aufheben, c'est-à-dire qu'il doit déposer et supprimer tout ce qui est croix et souffrance. Car il est sûr que qui se serait renoncé lui-même et serait entièrement sorti de soi, pour celui-là, il ne pourrait y avoir ni croix, ni souffrance, ni peine. Tout serait pour lui un délice, une joie, une adoration. Eckhart, vous le voyez, ne commente pas ce que tous ses contemporains commentent, à savoir, si quelqu'un veut venir derrière moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il ne lit pas, comme le lira l'auteur, « Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. » Il ne rend pas le précepte évangélique « tolle crucem » par l'allemand « aufnehmen »« prendre », mais par le « mittelhochdeutsch » moyen haut-allemand « aufheben » qui signifie à la fois « prendre » et « déposer ».« Aufhebung » en allemand moderne. « Hegel » par « aufheben » nous entendons, dit Hegel, nous, c'est-à-dire moi, d'abord la même chose que par inwegräumen, faire place nette, abroger, negieren, nier. Et nous disons en conséquence, par exemple, qu'une loi, nous, Allemands, si nous parlons allemand, nous disons que auf eben, n'est-ce pas, dans appliquer à une loi, n'est-ce pas, nous disons qu'une loi, une disposition, etc., sont aufgehoben, abrogées. Mais, en outre, aufheben signifie aussi la même chose que aufbewahren, conserver. Et nous disons en ce sens que quelque chose est bien wohl aufgehoben, bien conservé. Cette ambiguïté dans l'usage de la langue, suivant laquelle le même mot a une signification négative et une signification positive, on ne peut la regarder comme accidentelle et l'on ne peut absolument pas faire à la langue le reproche de prêter à confusion, mais on a à reconnaître ici l'esprit spéculatif de notre langue allemande, hein, qui va au-delà du simple ou bien propre à l'entendement. L'allemand est la langue de la raison, n'est-ce pas, qui précisément voit le « et » là où l'entendement limité, borné, ne voit que le « ou ». Donc, la charge sémantique du mot allemand « aufheben » que nous lisons en grand chez Hegel, repris par Marx par la suite, bon, etc., nous la trouvons déjà chez Maître Eckhart. « Aufheben » signifie « lever, soulever, prendre sur ses épaules, assumer, mais aussi enlever, déposer, ôter, supprimer. » Eckhart, dit un de ses commentateurs, M. Knebel, dans un article intitulé « La réception de la mystique rhénane dans l'idéalisme allemand », Eckhart joue de ce double sens, ainsi que l'indique le contexte. La métaphore « aufheben » qu'utilise Eckhart pour rendre l'expression « prendre sa croix » permet à ce dernier de passer bien au-delà du sens obvi du verset évangélique. L'auteur fait porter à ce terme une charge de dépassement qui ne manque pas d'évoquer l'usage que Hegel fera du même terme, aufheben, au centre de sa dialectique. Eh bien, je souscris entièrement à cette analyse. Prendre ou déposer, prendre et déposer, en un mot, dépasser. Dépasser, c'est-à-dire supprimer et conserver à la fois. Pour un lecteur d'Augustin, le tolle n'a rien d'équivoque ni de métaphorique. Certes, ce pourrait être le tolle du tolle lege du récit de la conversion. Attrape et lis, attrape et lis ce livre, j'y reviendrai. Mais je n'en crois rien. Le sens est retire, ôte, enlève. C'est celui, maintes fois repris par Eckhart, du passage de la Trinité d'Augustin consacré à la vision de Dieu comme bien pur. Je vous rappelle ces deux lignes. Bonum hoc et bonum illud. Bon ceci et bon cela. On dit bonhomme. Bon vin. Tolle hoc et illud. Retire le ceci. Retire le cela. Et vide ipsum bonum, si potes, et vois le bien lui-même, si tu le peux. Ita deum videbis, alors tu verras Dieu. Tolle hoc, tolle illud, retire ceci, retire cela. Eckhart reprend des dizaines de fois cette expression en allemand en disant qu'il faut retirer le dies et le das, hein, le ceci et le cela. Un dernier mot pour conclure cette première heure sur la compassion et le sujet de la douleur. C'est la dernière séance, donc nous allons quitter cette question du sujet de la douleur. C'est un thème que je quitte à regret, car c'est le plus riche et le plus problématique philosophiquement. C'est un véritable carrefour. C'est un échangeur conceptuel. Nous y reviendrons peut-être dans l'avenir, mais par quelle voie ? Les questions, donc les voies, sont nombreuses, chacune pouvant servir d'entrée dans un dispositif dont la complexité m'effraie un peu. J'en vois au moins quatre dans les dossiers que nous avons ouverts, dans les dossiers que nous avons entrouverts, et même dans les dossiers que nous avons seulement entrevus. Première question, peut-on dire la douleur ? Deuxième question, peut-on partager la douleur ? Troisième question, quel est le sujet de la douleur ? Quatrième question, quelle fonction a la compassion dans la vie psychique ? Les deux premières questions semblent liées. Peut-on dire la douleur ? Peut-on partager la douleur ? Dans « The Body in Pain », Hélène Scarry, une chercheuse américaine, met en relation l'impossibilité de partager la douleur avec la résistance de la douleur au langage. Autrement dit, l'impossibilité d'exprimer par des mots la douleur. On pense à Virginia Woolf, l'anglais, dit-elle, qui peut exprimer les pensées d'Hamlet ou la tragédie du roi Lear, n'a pas de mots pour qualifier un frisson ou un mal de tête. Je cite, « Lorsqu'elle tombe amoureuse, n'importe quelle écolière peut faire appel à Shakespeare ou à Keats pour s'exprimer. Mais qu'une personne souffrante tente de décrire un mal de tête à son médecin et le langage aussitôt lui fait défaut. And language at once runs dry. Je pense se tarit, n'est-ce pas? Runs dry. N'ayant rien à sa disposition, cette personne souffrante, n'est-ce pas, la voilà obligée, dit Virginia, d'inventer elle-même des mots. Et sa douleur dans une main et un morceau de son pur dans l'autre, elle espère faire naître de leur entrechoquement un vocable entièrement neuf. Ah, il y a bien des mots pour dire la douleur. Arnulphe Daumont, l'auteur d'un des articles consacrés à la douleur dans l'encyclopédie d'Alembert et Diderot, en propose quatre quand il distingue la douleur tensive, la douleur gravative, la douleur pulsative et la douleur pongitive. Quand il précise, sans hésiter, que toute autre douleur n'est qu'une complication de ces différentes espèces. Et conclut sans trembler que l'histoire des douleurs n'en a pas fait connaître d'autres jusqu'à présent. C'est probable. Mais le problème de l'expression reste entier. Ça vous chatouille, ça vous gratouille, bon, c'est dire ça. Ça, on arrive à le placer, mais tensive, gravative, pulsative et pongitive, je vous propose d'essayer ça avec votre pharmacien de garde. J'éprouve une douleur pongitive, on verra ce qui se passera. Sans parler du partage de la douleur, on voit mal comment le recours à ces expressions pourrait nous permettre de partager nos douleurs. Je pense qu'il vaut mieux aborder la question du partage de la douleur sous l'angle de la compassion, je veux dire sous l'angle du spectacle. Je disais tout à l'heure, pas de compassion sans spectacle, pas de spectacle sans compassion. Il est temps de rappeler ce que tout le monde sait, mais oublie peut-être, à savoir que le premier sens de pathos, en tout cas chez Aristote, est l'événement pathétique dans une tragédie. L'exposition sur scène d'agonie et de douleurs violentes, littéralement, je cite Aristote, d'actions qui font périr ou souffrir. Événement qui, dans la tragédie, suit la péripétie et la reconnaissance. Dans ce spectacle du corps souffrant, propre, selon Aristote, à susciter crainte et pitié. Dans ce spectacle du corps souffrant, pour autant qu'on puisse en juger par ce qui nous est parvenu des tragédies grecques, celui qui souffre crie sa souffrance. Il onomatopéise, il gesticule, il est ramené à l'état de bête sauvage, agrios. Comme le dit le Philoctète de Sophocle, je suis ensauvagé, transformé en sauvage par la douleur. Je suis dévoré par la douleur. Je suis mort. Avec le christianisme, le spectacle de la souffrance change de nature. D'abord, avec les martyrs, on passe du « je » au « nous ». Et l'effet de la douleur va à l'opposé de l'ensauvagement. La douleur socialise. Pour Judith Perkins, dans « The Suffering Self, Pain and Narrative Representation in the Early Christian Era », pour donc Judith Perkins, le triomphe du christianisme dans le monde romain est lié à la construction d'un « nous », d'une communauté de souffrants. Ceux qui descendent dans l'arène, qui sont livrés aux bêtes, etc. Au-delà des martyrs, à l'opposé, pour ainsi dire, il y a l'interdiction de la gladiature. Il serait intéressant de savoir quel rôle joue la compassion dans cet événement, l'interdiction, la suppression des spectacles de gladiateurs. Il faudrait tenir ensemble théâtre, jeu du cirque et supplice public. Théâtre, jeu du cirque, supplice public, trois spectacles douloureux. Le traité de Beccaria sur les délits et les peines, qui en 1764 porte les premiers coups au supplice barbare, supplice public barbare. Ce traité de Beccaria part du présupposé que l'agonie du corps ne fait pas seulement souffrir le supplicié, le condamné, mais aussi quiconque contemple l'application du châtiment. C'est ce qu'on pourrait appeler le principe de sympathie. Et c'est le vrai sens, évidemment, de la question « Puis-je souffrir dans un autre corps que le mien ?» Mais on sait les limites des thèses et des propositions de Beccaria. Si on sait les limites de Beccaria, il est à craindre, a fortiori, que son principe de sympathie n'ait pas joué un grand rôle plusieurs siècles plus tôt dans l'interdiction de la gladiature dans la Rome chrétienne. Au principe de sympathie répond de fait ce que j'appellerais le paradoxe de Venn, de Paul Venn. Je cite Paul Venn. Les mêmes empereurs chrétiens qui ont réprouvé, puis interdit la gladiature, ont encore aggravé l'atrocité des supplices judiciaires. Les mêmes fidèles qu'on écartait des spectacles de l'arène pouvaient regarder de tous leurs yeux les supplices des condamnés. Les mêmes moralistes qui dénonçaient la jouissance des spectateurs dans l'amphithéâtre omettent de dénoncer cette jouissance chez les spectateurs des supplices. Ce qui vaut pour la gladiature ne vaut pas pour les supplices corporels. Quant aux supplices eux-mêmes, si le IVe siècle voit disparaître la crucifixion et l'ad bestias, le fait de jeter les gens aux bêtes sauvages, eh bien, ce IVe siècle érige le bûcher en peine suprême et en allume à tout va. Jamais, dit Denis Grodzinski, il n'y eut dans l'histoire romaine autant de peines de mort. À en croire Paul Venn, c'est à cette époque, en 390, que des homosexuels montent pour la première fois sur le bûcher. Les prostituées des lupanars de Rome sont arrêtées en masse et brûlées, spectante populo. La compassion est foncièrement équivoque, précisément parce qu'elle est capacité de partager la souffrance d'autrui, non pas de la prendre sur soi, mais d'y prendre part, comme on prend part à un spectacle. La même compassion qui rend possible la pitié rend possible la Schadenfreude, comme disent les Allemands, la joie au spectacle de la souffrance. Il y a là, une fois de plus, une dernière fois pour cette année, c'est la dernière séance, un chiasme. L'empathie rend possible l'intérêt qu'on porte au récit des infortunes de la vertu, comme l'intérêt qu'on porte au récit des prospérités du vice. Le lecteur de Sade, tel que le veut Sade, et Sade est son premier lecteur, le lecteur de Sade prend plaisir aux deux, aux infortunes de la vertu comme aux prospérités du vice. Le lecteur sadien de Sade. Le lecteur normal, qu'on dit président normal, devrait souffrir avec Justine affligée et maudire Juliette triomphante. En fait, il donne, s'il est sadien, à l'une ce qu'il devrait donner à l'autre et réciproquement. Son mépris à Justine, sa sympathie à Juliette. Antidosis idiomaton. Comment passe-t-on de la répulsion pour la souffrance d'autrui au plaisir de le voir souffrir ? Par compassion. Parce qu'on éprouve avec lui ce qu'il éprouve, tout en restant impassible. Parce qu'on souffre, parce qu'on éprouve kat allo, père Aliyoud, selon l'expression de Théodore de Bèze, employée dans lors du colloque de Montbéliard face aux luthériens menés par Jacques. André Jacobus André. En a-t-on assez dit avec cette formule « souffrir cat allo » pour comprendre ce qui se joue là ? Non, certes, mais l'essentiel est posé, le chiasme, et la nécessité de penser le chiasme. Peut-on décrire ce qui a lieu dans cet échange, dans cette transformation spectaculaire. Oui, à condition d'avoir du génie. Comment transformer un enfant de cœur en hooligan ? Pour le savoir, il suffit de lire Augustin. Ouvrez les confessions. Voilà l'étrange histoire d'Alypius, l'ami de Carthage qui l'avait précédé à Rome pour y étudier le droit. Alypius avait autant d'aversion que d'horreur pour les combats de gladiateurs. Mais voilà qu'un jour, quelques condisciples de ses amis, au sortir de table, le rencontrent et, malgré l'obstination de ses refus et sa résistance, l'entraîne à l'amphithéâtre avec une violence amicale, dit Augustin, au moment de ces cruels, de ces funestes jeux du cirque du Loup Douce. Il s'écriait, Alypius, « Mon corps, vous pouvez l'entraîner, l'installer là-bas, mais vous figurez-vous que vous obligerez mon esprit et mes yeux à se fixer sur ces spectacles ? Je viens, mais j'y serai sans y être, adhéro absence. » Et ainsi, je triompherai d'eux, de ces spectacles, et de vous. Il a beau dire, les amis, un peu éméchés probablement, l'emmènent avec eux de force, curieux sans doute, dit Augustin, d'éprouver, de voir s'il pourrait tenir sa promesse. Ils arrivent. Nous voilà au grand stade. Ils arrivent, prennent place où ils peuvent. Tout respirait l'ardeur et la volupté du sang. Mais lui, Alypios, fermant la porte de ses yeux, défend à son âme de descendre dans cette arène barbare. Plût à Dieu qu'il eût aussi condamné ses oreilles. Car à un incident du combat, un grand cri s'étant élevé de toutes parts, il est violemment ému, cède à la curiosité et se croyant peut-être assez en garde pour braver et vaincre, même après avoir vu, il ouvre les yeux. Alors, son âme est plus grièvement blessée que le malheureux même qu'il a cherché d'un ardent regard. Il tombe plus misérable que celui dont la chute a soulevé cette clameur. Entré par son oreille, ce cri a ouvert ses yeux pour livrer passage au coup qui frappe et renverse un cœur plus téméraire que fort, d'autant plus faible qu'il plaçait sa confiance en lui-même au lieu de la placer en vous, dit Augustin, qui s'adresse toujours à Dieu, puisque ce texte est tiré des Confessions. À peine a-t-il vu ce sang. Donc, hein, il croyait pouvoir fermer la porte de ses yeux. Il ouvre les yeux. À peine a-t-il vu ce sang qu'il y boit, du regard la cruauté. Dès lors, il ne détourne plus l'œil. Il l'arrête avec complaisance. Retenez cette expression. Il se désaltère à la coupe des furies et sans le savoir, il fait ses délices de ses luttes féroces. Il s'enivre des parfums du carnage. Ce n'était plus ce même homme qui venait d'arriver. C'était l'un des habitués de cette foule barbare. C'était le véritable compagnon de ses condisciples. Que dirais-je encore ? Il devint spectateur. Applaudisseur. Furieux, enthousiaste, il remporta de ce lieu une effrayante impatience d'y revenir. Ardent, autant et plus que ceux qui l'avaient entraîné, il entraînait les autres. Chez les spectateurs de l'arène, vous voyez comment on en fabrique, hein, c'est simple. Chez les spectateurs de l'arène, spectatores gladiatorum, le désir de nuire, dit Augustin, la libido nocendi, se manifeste dans le seul et simple plaisir pris à voir souffrir autrui. Sola voluptate alieni mali. Plaisir qui suppose la perception d'une souffrance cat allo. Je ne reprends pas, faute de temps, cette expression « souffrir cat allo », même si c'est l'un des points les plus importants que nous ayons vus cette année, faute de pouvoir m'y arrêter. Laissez-moi vous en donner ce que je crois être une de ces formulations les plus claires chez les Latins. La définition augustinienne de la souffrance physique dans la cité de Dieu, qu'il faudrait développer philosophiquement à l'aide des notions de chiasme et de dénomination extrinsèque. Omnis perfectio trinitas, je vous cite pour terminer cette, ponctuer cette première heure, trois auteurs pour le prix d'un. Augustin, Valéry et Merleau-Ponty qui comptent pour un. Le chiasme. La définition de la douleur du corps, la douleur corporelle, de la douleur charnelle, selon Augustin. Dolores, qui dicuntur carnis, ces douleurs qu'on dit de la chair, animae sunt, sont des douleurs de l'âme, in carne, dans la chair, et ex carne, est causée par la chair. Dolor carnis, cette douleur du corps, cette douleur corporelle, cette douleur, je préfère dire de la chair personnellement, n'est autre chose, alors on traduit en général, qu'un chagrin de l'âme, une offense de l'âme, ex carne, évidemment, à cause de la chair, et quaedam habeus passione dissensio, et c'est donc cette douleur de la chair, du corps, c'est donc un chagrin de l'âme, hein, à cause du corps, de la chair, et de la répulsion dissensio, du dissentiment, du refus, du dissentiment est meilleur, de la dissension, hein, qu'elle oppose à ce qui se fait, à ce qui se produit, à ce qui pâtit dans le corps, dans la chair. Le chiasme, donc, est là. Hein. La douleur du corps, c'est la douleur de l'âme. Dans le corps, du fait du corps. Le chiasme de la compassion s'inscrit dans la série des chiasmes que j'ai introduits dans l'archéologie du sujet. Le chiasme de l'agency ou de l'agence, décrit avec la formule sujet égale agency égale je, dans naissance du sujet. Le chiasme de la dénomination, que j'ai essayé d'analyser dans la quête de l'identité. Et enfin, le chiasme du sujet et de l'objet, traité dans l'ensemble de mes volumes et dans les cours qui ont pu être donnés jusqu'ici dans cet amphithéâtre. Je pense que cette série de chiasmes est articulable, qu'elle constitue un dispositif qui mérite d'être étudié pour lui-même. Tout chiasme est étrange. Le mot est de Lucien Febvre, critiquant un cours de Léon Brunswick. Mais c'est d'abord un mot de Paul Valéry, décrivant les étranges rapports que font naître les regards qui se rencontrent, ou mieux, qui s'échangent. L'échange des regards. Cet échange, dit Valéry, le mot est bon, réalise dans un temps très petit une transposition, une métathèse, un chiasma de deux destinées, de deux points de vue. Il se fait par là une sorte de réciproque limitation simultanée. Tu prends mon image, mon apparence, je prends la tienne. Tu n'es pas moi puisque tu me vois et que je ne me vois pas. Ce qui me manque, c'est ce moi que tu vois. Et à toi, ce qui manque, c'est toi que je vois. In cauda venenum, cette analyse, cette espèce d'analyse peut s'appliquer de soi à soi-même. Alors c'est vos devoirs de vacances, n'est-ce pas ? Jusqu'à février prochain, c'est terrifiant. Quoi. Bon. Appliquer cette analyse de soi à soi-même. Merleau-Ponty, le dernier Merleau-Ponty, définit la philosophie comme chiasme des chiasmes. La question philosophique, dit-il, c'est l'existence même du voyant visible, du parlant parlé, du pensant pensé, du couplage et de l'appartenance au même être. La question, écrit-il, c'est le chiasme, et la réponse, c'est la question retournée, c'est encore le chiasme. Je ne prétends pas aller aussi loin. Je m'arrête, en tout cas ici, avant de présenter, dans la seconde heure, quelques remarques de synthèse. C'est l'heure. Voilà, donc on se revoit, enfin on se retrouve, se verra-t-on, dans 5 minutes.